Bon, et bien, rebonjour à tous pour la dernière session du colloque conçu pour durer. Donc, on finit maintenant en beauté par une conférence de notre témoin, parrain, Kondo. Alors que je vais présenter rapidement. Donc, Kondo est artiste hip-hop. Il a commencé sa carrière à 18 ans au sein du groupe parisien La Clica. Aujourd'hui, il est enseignant au conservatoire de Puteaux où il enseigne la création de chansons. Il évolue également en carrière solo. Son dernier album s'appelle Intramuros. Il est sorti en 2016. Je rappelle que ses CD sont en vente à l'accueil. Et comme nous le disions en introduction du colloque, quand il s'est agi de trouver un titre pour notre projet, pour évoquer de quelle manière les musiques hip-hop ont duré et perduré en France et dans le monde, le titre de cet album de La Clica, conçu pour durer, un album de 1995, nous est apparu comme naturel. Donc c'est le choix que nous avions fait. Et du coup, il nous est aussi paru naturel de proposer à Kondo d'être notre grand témoin pour ce colloque, ce qu'il a accepté, et nous l'en remercions chaleureusement. Et je le remercie particulièrement d'accepter donc aussi de conclure le colloque, et je lui passe la parole. Merci beaucoup.
Bonsoir. Merci à vous de me laisser la parole. Merci d'avoir choisi ce titre-là qui rend hommage à mon premier album. Ce premier album que j'ai fait avec un groupe, La Clica, mes collègues Rocade, Adil Ortiz, Raphaël et Gossais, vous en remercie aussi. Parce que c'est le témoignage aussi d'un travail qu'on a accompli quand on était jeune, plein de rêves, plein d'espoir, comme ce hip-hop que vous connaissez. Et avec le temps, cet espoir, on l'a conservé, on l'a fait mûrir. Et ça nous a permis d'être là, tous ensemble, aujourd'hui. Nous sommes juste des éléments de cette culture. L'élément que j'ai choisi de vivre pleinement, pour moi, ce fut le rap. Et lorsque Karim Amou m'a appelé pour savoir si je pouvais participer en tant qu'invité d'honneur à ce colloque, évidemment, j'ai répondu présent. Parce que quelque part, c'est un peu, pour le coup, une sorte de consécration, même si c'est pas la fin du chemin, bien au contraire. Je pense que tout ça, ce ne sont que des étapes. En tout cas, c'est bon de savoir qu'il y a des gens qui ont pris ce jeu avec sérieux. Voilà. Alors, pour démarrer, moi, hier, je me baladais comme ça dans ma bibliothèque, et puis je suis tombé sur ce livre qui s'appelle « Three Wishes, An Intimate Look at Jazz Greats ». Lorsqu'on interrogeait Lionel Hampton sur ses vœux, sur les vœux qu'il souhaitait pour lui et sa musique, ce dernier, en fait, disait je souhaite demeurer en phase avec le jazz ». Et comme lui, mon souhait pour le présent et le futur sera de rester en phase avec la culture hip-hop. Donc, pour lire ce qui... Vous pouvez lire ça. Donc, être en phase avec le jazz. Le jazz, pour moi, c'est les émotions, l'humanité du noir. Ça vient du temps de l'esclavage, quand les noirs priaient Dieu de leur donner la liberté. Ça, c'était le blues, le jazz d'inspiration spirituelle. Et plus tard, quand ils ont été un peu plus libres, ils ont fait un jazz plus joyeux. Ça vient du temps des nègres, du temps des esclaves dans les champs de coton. Le swing montait dans les champs, tu piges. Depuis que le jazz s'est popularisé, qu'il est devenu... Est-ce qu'on peut passer à la suite ? Merci. Commercial, qu'il a quitté les champs de coton et les chemins de fer, qu'il est entré dans les cafés depuis ce temps... Le temps de King Oliver, de Sidney Bechet, les hommes de couleur ont toujours été les premiers à changer la couleur du jazz. Avec l'évolution du pays, ils ont peu à peu changé la musique. Elle a toujours suivi le mouvement, elle a toujours été intégrée par les Noirs au rythme de leur émancipation, de Louis Armstrong à Fletcher Anderson, Don Redman, Edgar Thompson, Cy Olivier, etc. Ils ont transformé le jazz, c'était leur orchestration, leurs charts, qui faisait le jazz. Ils ont commencé à écrire des arrangements pour Benny Goodman, etc., etc. Il est facile, en fait, de remplacer le mot jazz par le mot rap, quelque part. Et quand je suis retombé sur cette phrase, je me suis amusé à faire ça, de remplacer le mot jazz par le mot rap. Et puis, je me suis rendu compte que, au final, les interrogations des pères, des anciens, finalement, sont aussi des interrogations des fils, quoi. Au quotidien, vous m'entendrez parler souvent de hip-hop, alors que je veux dire le mot rap. Je fais ce mélange parce que tout simplement, mon rap est intimement lié à la culture hip-hop. Mais c'en est qu'une infime partie. Parce qu'évidemment, quand je vais parler de hip-hop, de manière intrinsèque, de manière intuitive, je vais toujours, toujours penser à ces quatre piliers. Moi-même, je dirais je parlerai d'un cinquième pilier, donc le DJing, le graffiti, la danse, le rap. Et le beatbox, pour moi, fait partie intégrante de la culture hip-hop. Et puis, bien sûr, pour le coup, mais c'est pas dans les... Pour le coup, le beatbox n'est pas mentionné dans la charte de la Zulu Nation, mais évidemment, la connaissance en est le cinquième élément symbolique, nous disait Murray Forman. Donc moi, quand je parle de hip-hop, forcément, j'aurai toujours en tête toutes ces formes esthétiques, même si parfois je veux dire juste le mot rap, quoi. Donc il sera bon d'apprécier, selon les termes utilisés, le mot rap, dans le sens où, comme disait KRS-One, hip-hop is what you live, rap is what you do. Le hip-hop, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu ressens. Puis le rap, c'est vraiment l'esthétique que tu pratiques, quoi. Donc, l'un est une culture, l'autre est une expression issue de cette culture. Je me disais donc qu'il était possible que finalement le rap soit aux années 90, 2000, 2010, ce que le jazz fut dans les années 50 et 60. Et finalement, quelque part, ça me remettait en perspective et je me disais que le hip-hop, en fait, prenait le relais de ces générations passées et s'inscrivait dans cette continuité-là. Donc, je me souviens aussi d'un autre artiste dans ce livre qui s'appelle Frank Reak, donc qui est un tromboniste arrangeur californien, qui lui fit le souhait qu'on fasse preuve de plus de pédagogie pour offrir au public un jazz de qualité. Si je m'amuse encore à remplacer le mot jazz par le mot rap, je me rends compte que finalement, on arrive encore au même résultat. Ça pourrait aussi fonctionner quelque part. Et moi, j'ai fait le même souhait pour ma musique, et ce, très tôt, en fait. À 15 ans, déjà, je voyais le rap comme un antidote à la musique de masse produite pour la FM. Et ce qu'on voulait faire émaner de ma culture ne renvoyait aucunement à ce que je vivais. Donc, il fallait rendre ma musique, ma culture, accessible, plus compréhensible. C'est ça qui a été mon but, et ce, très tôt. Tandis que beaucoup s'insurgent contre l'excellence, ben moi, je la valorise. Je ne peux pas me complaire dans la médiocrité. Toutefois, face à l'excellence académique et institutionnelle, j'oppose et je revendique l'excellence hip-hop, dans le sens de chercher à faire de son mieux, repousser les limites, arriver avec ce que l'on est et repartir enrichi de son expérience et du savoir des autres. Tout tient en cela, expérimenté. Donc j'ai fait l'expérience des esthétiques hip-hop et j'ai opté pour le rap. Durant ce colloque, j'ai fait l'expérience de la concentration, de la rigueur, de l'écoute. J'ai expérimenté avec vous l'intelligence mise au service de nos arts, de notre culture. J'ai fait l'expérience de la compréhension, de l'apprentissage, et demain, je ferai l'expérience de la transmission. Ce sera sur scène, avec mon public, ou bien avec mes élèves. Et avec eux, je partagerai ces expériences. Notamment cette expérience de 3 jours. Ce que je sais, ce que je vois, c'est que comme vous, je constate que chaque jour, il y a des millions de personnes issues de nos sociétés urbaines qui partagent une expérience sensorielle en provenance des cultures hip-hop. Certains regarderont une publicité, un film, une vidéo de b-boying, une démo de scratch. Certains iront regarder des graffitis dans des terrains vagues ou dans des galeries. Certains apprendront des techniques de beatboxing. en regardant un cours, peut-être sur Internet. Certains se déplaceront dans des centres culturels estampillés hip-hop en France, dans d'autres pays, au Sénégal, à Dakar, à Paris, à Lille, aux États-Unis. Donc, je souhaite remercier les scientifiques, les knuckleheads, les scienceux, les geeks, les silencieux, en fait. Bref, tous ceux qui, comme moi, ont été catalogués un jour, marginalisés pour leur amour du savoir et de la connaissance. Tous ceux qui se sont attachés à expliquer les tenants et les aboutissants de cette culture à travers le monde. Et puisque deux choses nous donnent raison, à savoir le nombre et ou le temps, je suis heureux d'avoir eu le temps de voir un si grand nombre de passionnés silencieux, amoureux de la culture, devenir des scientifiques à part entière. Le hip-hop est une matière qui a été conçue pour muter. Irrévérencieux au départ, affranchi des codes, parfois même dans, de ses origines états-uniennes, comme le disait Sujata Fernandez, sauvage, irrespectueux ou à l'inverse révérencieux. La culture hip-hop s'est transformée depuis 40 ans comme si cette culture était en fait conçue pour muter. La culture hip-hop, c'est... Ma culture hip-hop est intimement liée à ma musique, le rap. Parce qu'il résume bien cette culture qui se nourrit des autres, des histoires passées qu'on dépoussière, qu'on arrange, qu'on pille, souvent, qu'on régénère aussi. Par son aspect originel, le rap est à la fois une musique organique, jouée par des musiciens, et une musique électronique, jouée par l'intermédiaire des platines, puis des ordinateurs. La culture hip-hop est intimement liée à son pouls originel, le breakbeat. C'est le breakbeat qui donne naissance au rap, puis à la house, puis à la jungle et à d'autres styles. Mais la répétition du rap, l'ostinato du breakbeat et du sample, oblige forcément en fait à sa transformation. Sans cette transformation, s'installe obligatoirement une monotonie ou bien une transe. Le choix est à vous. Oui, le rap est vandale, voleur, tricheur, brailleur, violent, truculent, peut-être même colonisateur. Parce que le rap est ancré dans la réalité économique et l'industrie musicale. A contrario, la culture hip-hop, elle, est novatrice, en mouvement, en dialogue avec le monde. Elle a détourné tellement de règles, émancipé tellement de monde. La culture hip-hop, c'est l'incarnation d'un rêve collectif. Si on est là aujourd'hui, 40 ans après, c'est parce qu'on a tous rêvé ensemble, on a tous ressenti quelque chose ensemble. Et je le répète, rap is what you do, hip-hop is what you leave. Le rap, c'est ce que t'es, c'est ce que tu fais, pardon. Le hip-hop, c'est ce que t'es, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis. Donc moi, j'ai vécu avec la culture hip-hop. Le jour où je suis tombé amoureux de la culture hip-hop. Donc c'était un dimanche après-midi. C'était le 14 janvier 1984. Il devait être aux alentours de 14h. Et je regardais cette émission qui s'appelle HIP HOP, qui a été animée pendant un an par Sidney Dutheil. Et ce jour-là, j'embrassais le hip-hop. Comme d'autres embrassent la religion. En fait, j'avais un terrain qui était assez fertile, parce qu'effectivement, à la maison, j'ai envie de dire, on m'avait bien nourri. Je suis fils unique de mère célibataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vis avec ma mère. Et que le samedi matin, j'ai le son de ma mère. Et heureusement, ma mère avait bon goût. Donc pour le coup, j'avais le droit à des choses comme James Brown, Herbie Hancock, avec Grandmaster DST. Ça, je crois que c'est un disque que je l'ai obligé à l'acheter, c'était Rock It. Il y a eu Frankie Smith, c'était sur une compilation de disco, le Double Dutch Bus, puis Jimmy Castor Bunch. Il n'y avait pas que de la musique américaine à la maison, mais il faut dire qu'il y en avait. Et donc forcément, j'avais un terrain assez fertile pour succomber au charme de la culture hip-hop. Moi, j'y ai vu un remède à la solitude. Parce que j'étais un enfant nomade du fait d'être fils unique de mère célibataire, qui, elle, déménageait souvent, à peu près une fois tous les 4 ans. J'ai trouvé dans la culture hip-hop des attaches, un ancrage. Donc j'ai fait des rencontres, des amitiés, des courtes, d'autres qui durent encore depuis longtemps. C'est pour ça que j'aimerais faire un grand big up, comme on dit, à Sidi Say. Parce que quand j'avais 17, 18 ans, bah, lui et moi et d'autres, on s'est réunis pour faire une clique. Ça s'appelait Coup d'État Phonique à la base. Et Sidi était danseur avec un autre qui a fait un très grand chemin qui s'appelle Booba aussi. Et c'est assez drôle parce que souvent, une fois, j'ai le souvenir d'être sorti du métro, je devais être place de l'Étoile. Et puis, en sortant du métro, face à moi, je vois une Lamborghini avec le U de Uncut devant. Et je me dis, bah merde, je crois que j'ai raté ma vie. Mais en fait, c'est le genre de colloque qui vous donne le sentiment qu'il est bon de continuer à garder ses principes, à garder sa dignité, faire ce qu'on aime, comme on le pense. Parce qu'à un moment ou un autre, finalement, les gens qu'on croise chaque jour, c'est la récompense du travail qu'on accomplit. J'ai le souvenir aussi d'être sorti une fois encore du métro en me disant « Merde, je crois que je vais arrêter de rapper. » Et là, un type se pointe, me regarde, me dit « Mais Kondo, faut trop que je te salue, faut trop que je te big up. » Et je lui demande pourquoi. Dans ma tête, je me dis « Là, j'en ai marre de ce métier. Il est ingrat, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de thunes. Merde, qu'est-ce qu'il me veut, ce gars ?» Et il m'explique tout d'un coup qu'en gros, il me dit, grâce à tes paroles, en fait, je ne suis pas allé en prison, et je lui demande pourquoi. Et il me dit, j'ai le souvenir d'un de tes textes qui faisait, dis-moi, qui va nourrir tes gosses quand derrière l'ombre des bars, en tôle, tu seras le boss. C'était issu d'une compilation qui s'appelle Paris, New York, Marseille, et le titre s'appelle Un œil sur l'objectif. Donc effectivement, je me rappelle avoir écrit ça. Il me dit, bah, ce soir-là, je devais rejoindre des copains pour faire un mauvais coup. Alors, je crois que c'était un deal de clope et d'alcool, un truc comme ça. Mais il me dit, je suis resté chez moi. Mes potes sont tombés, mais pas moi. Et alors là, j'ai vu un signe, parce qu'on aime tous voir des signes quelque part. Et je me suis dit bah, qu'il était bon de continuer et de garder cette ligne de conduite encore. Alors, je l'ai gardé, cette ligne de conduite. Donc, j'ai vu plein de personnalités. J'ai rêvé avec certains. J'ai bâti avec d'autres. Donc pour moi, la culture hip-hop a été fondatrice. Je me suis appuyé sur elle pour construire ma vie. Donc depuis mes 9 ans, à aujourd'hui, elle a toujours fait partie de moi-même. Et quand j'ai travaillé dans le monde corporatif de l'assurance, parce que j'allais dans une boîte d'assurance ce jour-là pour bosser, eh bien, c'est ma passion qui a été leur part d'oxygène à mes collègues et à moi. Mes concerts, qui étaient pour eux un espace d'évasion et de rêve, parce que ça me permettait de rentrer en connexion avec eux et eux avec moi. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des gens qui ont toujours été bienveillants avec le rap que je pratique et la culture hip-hop telle que je la vis, quoi. Ça n'a jamais été pour moi un fardeau, je m'en suis jamais caché. Et je crois que quelque part, ça m'a construit, un peu comme pour vous. La vie, c'est un éternel battle. On ne fait que passer le temps en attendant la mort. C'est un peu cynique, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc, j'ai jamais pu me résoudre vraiment à cette idée. Enfin, j'ai pu m'y résoudre que parce que, en gros, il y avait le jeu, quoi. J-E-U-U. On se trompe pas. Le jeu aussi, J-E. La culture hip-hop m'a offert, en fait, un espace de jeu, un espace de liberté dans une société qui s'est évertuée depuis la crise des années de 1973 à faire de nous des consommateurs. Nos sociétés occidentales urbaines, on cherchait à tout catégoriser, faisant de nous des éléments statistiques prévisibles. Mais finalement, on lui a opposé un monde nouveau, un espace mouvant et en mouvement. La culture hip-hop, c'est presque la réaction au monde, à ce monde-là, à ce monde tel que le définissait Lelay, le directeur de TF1, qui disait bah, « Pour nous, les spectateurs, c'est avoir du temps de cerveau disponible ». La culture hip-hop, pour moi, elle passe par le test, par les erreurs. Les erreurs en fonction qu'on soit danseur, MC, beatboxer, DJ ou graffiti artiste, n'ont pas du tout les mêmes conséquences. Il y a certains taggeurs qui ont laissé leur vie, tels que Zoka à Montpellier, d'autres qui sont allés en tôle. Il y a des danseurs qui ont laissé des poignets, des côtes, des coudes, qui ont eu des fractures. Il y a eu des rappeurs, pour le coup, qui ont été censurés. Je pense à NTM, Ministère Amer, Youssoupha. Dans la culture hip-hop, voilà, en faisant ces expériences, forcément, on se trompe et on progresse. Et à la fin, on avance et on continue d'avancer. C'est une culture qui m'a toujours challengé. Elle m'a demandé, en fait, du sérieux et de la rigueur. Et puis surtout de la connaissance. Parce qu'on a besoin de connaissances, de personnes qui nous donnent des idées, de compréhension du monde, des clés pour lire le monde et la vie. Comme bien des gens, j'ai longtemps cru que Rapper's Delight était le premier titre de rap enregistré, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un ami qui me fasse comprendre que Fatback Band avait enregistré le titre King Team 3, Personality Joke, en premier. Pareil, pendant longtemps, il m'aura été difficile de définir mon art, le rap. C'est grâce au savoir de mes pères que j'ai pu trouver une définition parfaite pour ma musique. Je repense à Nassim Ulpat. La définition de Nassim Ulpat, je l'utilise souvent en cours parce que je la trouve parfaite. Le rap, c'est parler en rythme sur de la musique. Une fois qu'on a compris ça, quand on parle de rap, on parle la même langue. On parle d'abord d'une musique. Et cette musique-là, c'est une forme musicale. Et le fond, il appartient à chacun comme n'importe quel autre artiste. On peut y mettre ce qu'on est, ce qu'on veut. Mais il se trouve que les gens qui pratiquent le rap, qui parlent en rythme sur de la musique, eux se sentent quelque part, peut-être, en tout cas ma génération, appartenir à quelque chose de plus grand, un rêve collectif plus grand, à savoir la culture hip-hop. Donc nous, les artistes, on a besoin de connaissances. Car celle-ci, comme le rappelle Forman Murray, c'est donc le cinquième des piliers de la Zulu Nation. Le savoir comme élément implicite de la culture hip-hop, each one, teach one. La culture hip-hop, c'est l'incarnation de cette idéologie des Black Panthers, l'idéologie de la rébellion. Toute rébellion doit s'organiser, se préparer, se réfléchir, penser à des solutions alternatives. Et c'est là où est l'intérêt d'un colloque comme celui-ci, parler sérieusement d'un jeu que l'on aime pratiquer ensemble. Moi, je reste un éternel enfant, et donc comme eux, je suis joueur. Et quand je joue, bah, je le fais sérieusement. Alors la culture hip-hop, elle doit se prendre au sérieux? Doit-elle se prendre au sérieux? Doit-elle être prise au sérieux? Dans quel but? Pour plaire à qui? La culture hip-hop doit-elle se prendre au sérieux? La culture hip-hop, c'est-elle trop intellectualisée? Et le sens dans tout ça? Et le son? Et l'énergie? Quelle est la place du rêve? Quelle est la place de la sensation? Voilà, moi, je vois la culture hip-hop à la manière d'un champ synaptique en pleine activité en phase de sommeil paradoxal. L'activité du hip-hop est semblable à des feux d'artifice, quoi. La culture hip-hop nécessite une multitude de connecteurs actifs, impliqués, passionnés, qui se reconnaissent et parle un langage parfois sous-entendu. Alors restons vigilants face à la calcification institutionnelle. Elle se doit de rester un mouvement de fond, en périphérie de l'art et bousculée. C'est ce que nous rappelle Philippe Moral, directeur des Métallos. La marge nourrit la norme et la transforme. C'est ce qu'il disait en introduction, notamment. Donc cette culture transforme. Et certainement m'a transformé, elle nous a transformé, elle a fait de nous des avocats beatmakers, des ambulanciers DJ, des enseignants périscolaires rappeurs. Donc cette culture, elle a transformé le monde en profondeur, elle a créé des autodidactes aussi, des auto-entrepreneurs. Et souvent quand on utilise le terme autodidacte, il y a une question qui se repose, c'est est-on vraiment autodidacte? Moi j'ai eu des mentors, je le disais tout à l'heure, Sidney Dutheil, Fab Fab Freddy, Dr. Dre, Ed Lover sur MTV, Zoxy, Lionel D, Dynasty, KRS-One, Rakim, Nas, Afrika Bambaataa, Grandmaster DST, Melly Mel et plein d'autres. Donc chaque œuvre, chaque individu a laissé son empreinte sur mon chemin. J'aimais le rap, mais je n'avais aucune notion de musique, de cadence, d'harmonie, de flow. J'ai mimé, copié, senti, compris, appliqué, puis j'ai fini par être. Ça, pour le coup, c'est Sojatar qui le disait, en parlant d'un rappeur cubain. Aujourd'hui, j'enseigne le peu que je sais et j'accompagne les miens sur leur propre chemin. Aujourd'hui, la culture hip-hop me régénère. Et quand je parle de hip-hop, je parle de toutes ces esthétiques, bien sûr. J'ai dû réapprendre l'équilibre réapprendre les lois de la gravité grâce aux danseurs. En fait, il me rappelle que le corps, comme l'esprit, n'a pas de limite. C'est quand même dingue ce que font les danseurs aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils pourraient tourner sur un petit doigt. Les graffiti artistes, eux, me rappellent qu'il est possible de transformer mon regard. Les DJ et les beatmakers me nourrissent, et bien souvent, ce sont les femmes qui me redonnent la direction, pour le coup. C'est grâce à l'impact de ces arts. C'est grâce à l'impact que ces arts produisent, en fait, sur elles, que je m'interroge sur... sur ce qu'est ma culture. Parce qu'elles sont pour moi des pères, en fait. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Parce que c'est ce qu'a interrogé Stéphanie Molinaro en moi par rapport à la présentation qu'elle a pu faire. Et elle m'a fait comprendre que la culture hip-hop pouvait pas être genrée, en fait. Finalement, ce qui me chagrine le plus aujourd'hui, ça reste encore les médias et le filtre qu'ils exercent sur les musiques hip-hop. Il y a comme un espèce de bannissement de l'intellect. Comme le montre bien l'étude de Corentin Roquebert sur faire du rap 2, face aux insultes qui constituent les occurrences les plus citées en matière de rap, va se dresser le mot conscience. On a donc là un parfait équilibre entre les aspérités rugueuses de ma culture et ses aspirations les plus profondes, notamment dans le rap. Donc, comme si j'ouvrais un album, c'est grâce à mes pères que j'ai appris ma culture. Donc, si je me tiens là, devant vous, c'est que Grand Master Caz, Public Enemy, Rakim, Ice Cube, KRS-One, Pupa Leslie, Zoxy, I Am, Squad, Solo, NTM, I Am, Sola, tous ils sont pour quelque chose. C'est aussi grâce aux nouvelles générations qui, comme moi, font l'expérience de leur force sans se soucier du passé. Et ils ont raison d'être eux-mêmes en rupture, parce que c'est maintenant que les choses se vivent. Et leur mission, à eux, à ces nouvelles générations, c'est de construire leur futur, le futur. C'est aussi leur, après tout. Donc, comme disait Common, I used to love her. Ben, je l'aimais, ma culture. Donc, il m'est aussi arrivé de la critiquer, de la remettre en question, de l'interroger, de la psychanalyser. J'ai vu des ambivalences et des contradictions. Quand il s'agissait d'évoquer le féminin dans le rap, c'est posé à moi la question de savoir si ma musique devrait s'écrire au féminin ou au masculin. La trap, elle est bien féminin, elle. Pourquoi pas la rap musique, en fait. Donc je pense que la même question vient à moi quand je pense à Dieu, quelque part. En fait, souvent, je me dis que Dieu ne peut être qu'une femme. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui peut donner naissance, en fait, à des choses aussi magnifiques que ce qu'on a pu créer dans le hip-hop, et même au-delà du hip-hop, dans l'univers et notre environnement, quoi. Alors, la question pourrait se poser de savoir, est-ce que le rap est androgyne à ce moment-là ? Transgenre, du moins. C'est ce que je croyais, quoi. Et là, pour le coup, encore une fois, la communication de Stéphanie Molinaro a pu me faire en sorte que je me rende compte que ma culture, elle a été complètement confisquée par les hommes. Et pareil, c'était la dernière intervention qui a eu lieu avant moi. Excusez-moi, j'ai pas tous les noms et prénoms en tête, mais vous me corrigerez. Très bien. Voilà, donc cette culture a été confisquée par nous, les hommes. Les mêmes qui avaient l'envie, en fait, de s'émanciper du regard et de l'ostracisme. Donc, qu'est-ce qui reste de cette utopie et de l'essence de la Zulu Nation aujourd'hui ? Donc, face aux impérialismes culturels et sociaux, se pose la question de la résistance. Donc, d'abord, on s'est approprié les mots, et puis on les a retournés contre eux. Eux, ceux qui se dressaient contre nous à l'époque, on a imposé nos langages, nos vernaculaires, les mots de nos quartiers, nos souffrances. Et donc, comme disait Kateb Yassine, le français fut notre butin de guerre dans le rap. On en a fait ce qu'on en a voulu, quoi, au final. Donc le langage et les mots sont devenus nos armes pour nous, les rappeurs, avant de devenir notre butin de guerre. Aujourd'hui, on a inversé la colonisation culturelle, quelque part. On a imposé nos codes, mais à qui ? À quel prix ? Quand il s'agit d'impacter les classes dominantes, ok, ce fut une victoire. Mais quand nous nous en sommes pris au nôtre, on a agi comme tous les dominateurs. Ça, pour le coup, ça me rappelle l'intervention de notre collègue du Sénégal. Excuse-moi encore, j'ai pas eu le temps de noter tous les noms et prénoms. Abdoulaye Niang, exactement. Donc, il suffit d'observer la culture rap ou le graffiti pour se rendre compte que comme nous, ces cultures, comme nous-mêmes, ces cultures changent d'attitude au fur et à mesure que leur succès évolue. Ça, c'est ce que nous disait Peter Reimer. Donc, irrévérencieuse, la culture rap, ça s'agira-t-elle, en fait avant de rendre son dernier souffle. Et on peut se poser aussi la question, donc pour le coup, pour la culture hip-hop. Est-ce qu'on suivra le même schéma que Psychiatre de la Rime ? Est-ce qu'on est passé par l'authenticité, la crédibilité ? Et maintenant, on en arrive à l'apaisement ? Peut-être. Est-ce que tout ça va nous mener à un sage universalisme ou une culture post-punk ? Hein ? Donc notre hip-hop, notre culture hip-hop, a le devoir de se réformer, et c'est pourquoi cette culture suscite autant de débats, car elle nous interroge, elle nous questionne, elle nous remet en question sur sa légitimité. Et ce sont les acteurs eux-mêmes qui redéfinissent les règles. Finalement, les Cézanne, les Zola, les Renoir, les Manet, c'est nous. Les Marco 93, Dacruz, Batch, les DJ Fab, les Dynasty, les AKH, les KOH, les Dead Cabal, c'est nous. C'est nous qui redéfinissons un peu ce monde-là. Les Lionel Hampton, les Charlie Parker, c'est nous, maintenant. Donc il aura fallu du temps pour prendre ces arts au sérieux. On a dû enrober nos mots, nos douleurs, nos messages. On les a enrobés de musique, de beats, de sonorités, cool, parfois, alléchantes souvent, pour les rendre plus acceptables, mais heureusement, réduit à son plus simple appareil, le rap reste corrosif. Et donc, pour conclure, laissez-moi citer une punchline de Ton Su pour durer, et cette fois-ci, je la dois non pas à moi, mais à Daddy Lorty. Restons des KRA. KRA, je veux bien, mais toutefois avec du génie.
Merci beaucoup, Kondo. Merci. Alors, je reprends tes mots, du coup. Merci pour ton sérieux et ta rigueur, du coup. Et justement, du coup, j'en profite peut-être pour faire une petite annonce, vu que tu nous as parlé de tes mentors. Tu nous as parlé d'un de tes mentors qui s'appelait Dynasty. Et en fait, il se trouve que Dynasty joue ce soir dans un bar qui s'appelle le Saint-Sauveur, qui est à quelques rues d'ici. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. En tout cas, nous, il est très possible qu'on y soit. Et vu qu'on a un peu de temps, on va peut-être prendre quelques questions dans la salle, s'il y a quelques questions pour Kondo. Et ouais, juste par contre, une petite remarque. Tu parlais de Stéphanie Molinero, tu voulais parler de Pauline Guérin, du coup, peut-être ouais, ok. Voilà.
Bonsoir, je me présente, je m'appelle Jones, et ma question, en fait, c'est, comment dire, après tout ton parcours que tu nous as décrit là, comment tu te sens avec... mais je veux dire, comment tu te sens, parce que là, juste avant, il disait que tu as eu des mentors, mais comment tu te sens, comment dire, est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, toi-même, maintenant, tu as un mentor, voilà, c'est ça. Comment tu sens après le fait de savoir que t'es un mentor ? Je vois, c'est parfait.
Alors le truc, c'est comme je suis un grand gamin, je me sens jamais comme un mentor. Par contre, je me sens comme un passeur. Je suis souvent à côté des gens, dans ce qu'ils sont dans leur art. Et voilà, je pense qu'il faudra, il faudra encore du temps pour que je puisse être qualifié comme ça, quoi. Mais si effectivement des gens le pensent, ben j'en suis flatté.
Bonsoir tout le monde. Kondo, ce ne sera pas une question, mais un petit mot. On est une génération qui avons vu des choses dans la télé. Tu parlais de hip-hop avec Sydney, etc. Et en fait, je voulais te remercier. Tu as fait un concert à la place. Je ne sais plus c'était quel mois. Tu me connais, moi, la notion du temps, je suis toujours un peu perdu. Et ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Parce que là, il y avait une énergie... alors, d'aucuns diront du bon vieux temps, ou je ne sais pas, ce n'est pas ça la question, mais il y a eu une énergie qui correspond à tout ce que j'aime dans cette culture. Des gens super investis, super amoureux de ce qu'ils font et de ce qu'ils pratiquent, une super belle écoute. Et je sais qu'à cette période, tu étais en questionnement, comme nous tous, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je ne vais pas faire autre chose, etc. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette salle où je me suis senti à ma place, à l'extérieur de la scène, d'être partie prenante de ce spectacle-là. Et je pense que ça, tu le dois à toi. Et tu dis que tu n'es pas un mentor, mais ce qui s'est passé ce jour-là m'a clairement décrit quelle place t'occupais dans le paysage. Et franchement, ce n'est pas anodin, donc merci pour tout ça.
Merci, D.
Non, mais du coup, voilà, pour moi, tu es une personne avec une certaine notoriété, etc. Je suis artiste et j'ai une page Facebook. Est-ce que je peux me permettre de demander un like sur ma page Facebook?
C'est ça le hip-hop, j'adore. Mais oui, avec plaisir, il n'y a pas de souci.
Merci. Enfin,
faut que j'aime, hein, bien sûr.
Comment?
Faut que j'aime, faut que j'écoute avant.
Oui, ouais. Mais c'est gratuit, c'est tranquille après.
Ah non, on l'a dit.
Voilà.
Mais ce sera avec plaisir, t'inquiète pas.
Avec plaisir, ok, ça marche, merci. Et du coup, oui, voilà. Et si jamais j'ai des événements ou quoi, est-ce que je peux t'y inviter?
Ça, c'est vraiment les hip-hop.
Merci beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai un ami rappeur qui vient du Sénégal. Voilà, est-ce que il a une page Facebook aussi, Poulard B, est-ce que je peux te demander un like sur sa page? Carrément.
Non, mais le hip-hop a fait de nous des auto-entrepreneurs. Hein. Ça, c'est un vrai communicant. Respect.
Bien, merci beaucoup. Du coup, on aimerait... le colloque touche presque à sa fin avant le showcase de Dead Cabal. On aimerait quand même vous dire quelques mots pour conclure un peu ces trois journées. Et je laisse la place à Marie pour quelques mots de conclusion après la conclusion, même si c'est dur de passer après Kondo.
Donc merci. Alors tout simplement, on ne va pas bouder notre joie de voir ce colloque se terminer de la plus belle des manières. Je pense qu'on est tous ici très contents de la manière dont ça s'est passé, voire un peu fiers d'avoir réalisé ces trois jours de colloque après 18 mois de travail, de prise de tête, de discussion, d'organisation intense. On est très heureux d'avoir réussi à mener un projet qui impliquait à la fois des acteurs du monde universitaire et du monde professionnel de la musique et de la culture. Et c'est une hybridité qui s'est retrouvée à la fois à la tribune, comme on le montre ici, mais aussi dans le public. Et ça a été important de voir le public qui est venu, à la fois en nombre, parce que c'est pas évident en semaine, en journée, etc., de venir, mais aussi on a eu à la fois des collègues du monde universitaire, mais aussi, on le sait, des artistes, des professionnels de la musique, et ça a mené des bonnes discussions à la fois dans le in et dans le off du colloque. Alors je vais commencer par les remerciements parce que c'est important. On va remercier bien sûr tous les partenaires qui ont rendu cet événement possible, mais notamment la Maison des Métallos qui nous a accueillis et qui nous a permis l'existence d'un programme culturel pendant le colloque. Le laboratoire Crespa, qui a porté l'organisation du projet. Le département d'études du ministère de la Culture, qui est notre principal financeur, et l'association Hip Hop Citoyen pour son soutien sans faille tout au long du projet. Bien sûr, on remercie tous les communicants qui sont venus de près et de très 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 loin, particulièrement nos conférenciers, Sujata Fernandez, Murray Forman et Kondo. le public très éclectique pour notre plus grand bonheur. Et puis moi je me remercie tous mes collègues organisateurs qui ont donné de leur temps, de l'énergie, de la passion, Karim Amou, Alice Aterianus Owanga, Emmanuel Carinos, Virginie Millot et Séverin Guillard.
Et bien entendu, et bien entendu Marie Sonnette aussi.
Alors, quelques mots quand même sur la genèse du projet. Il y a 18 mois, quand on a commencé à se réunir, on avait deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de donner un espace conséquent dans le champ académique aux musiques hip-hop. Et le deuxième objectif, c'était de revoir les rapports entre centre et périphérie dans l'étude des musiques hip-hop, notamment en mettant en exergue, en évidence, les approches francophones sur les musiques hip-hop. On pense qu'en partie, ces objectifs ont été réalisés, et c'est ce qu'on va développer rapidement avec Séverin ici. Sur le premier point, on sait à quel point les musiques hip-hop subissent encore une illégitimation paradoxale, comme peut le dire Karim Amou, ou encore une banalisation inachevée, comme a pu le dire François Dubrine durant le colloque, en France. Alors, ces deux expressions traduisent bien des processus complexes dans lesquels sont prises les musiques hip-hop. On a d'un côté l'un des secteurs les plus novateurs et vendeurs de l'industrie musicale à une échelle mondiale, et également une des musiques les plus écoutées, hein, comme, notamment chez les jeunes, comme a pu le montrer Florence Eloi ou Thomas Legon, et qui pourtant continue de subir une minorisation et une altérisation qui est liée à des enjeux de pouvoir, de classe et de race, comme a pu le montrer par exemple la communication de Marion Dalibert sur la médiatisation du rap dans la presse de référence. Et pourtant, à cette minorisation massive des musiques hip-hop dans le monde social, nous avons pu observer qu'il existait aussi une minorisation de l'objet musique hip-hop dans le monde académique. Les chercheurs que nous sommes sur les musiques hip-hop ont régulièrement pu tester une frilosité, une réticence, un étonnement, voire parfois une grivoiserie, il faut bien le dire, de la part de nos pairs lorsque l'on dit que l'on travaille sur les musiques hip-hop. Et donc, en choisissant de faire un colloque sur 3 jours avec une trentaine d'intervenants universitaires, on a cherché à montrer que le hip-hop, c'est un objet largement présent à l'université et qu'il va maintenant falloir compter avec lui. On a observé qu'il existe une demande sociale pour ce type d'événement et je pense que l'affluence qu'a eu le colloque pendant 3 jours a pu le montrer. Par ailleurs, se réunir pendant 3 jours, c'était à la fois faire une démonstration de force de notre champ, la démonstration que ce champ d'études existe, mais c'était aussi une occasion pour le monde académique du hip-hop de se poser autour d'une table et de poser les questions qui fâchent. Il y a des choses qu'on avait aussi à se dire et à se poser éthiquement et politiquement lorsque l'on travaille sur ce type d'objet. Sujata Fernandez nous a interrogé sur les relations entre le Nord et le Sud. Murray Forman nous a invité à nous questionner éthiquement et politiquement sur les manières de ne pas s'approprier le travail d'artiste lorsque l'on est un chercheur, et c'est une réflexion que l'on souhaite mener de fond en comble. Pauline Guérin nous invitait à une réflexion sur les rapports de domination qui existent chez les auditeurs de rap eux-mêmes, etc. etc. Ces questions de rapport de pouvoir, elles existent aussi au sein du champ académique, et c'est des questions qui nous ont accompagnés durant toute l'organisation du colloque et surtout, en fait, la question de comment déjouer ces rapports de pouvoir. On a essayé de bout en bout de tenter une meilleure représentation et visibilisation des femmes et des racisés. En partie, ben, on n'a pas réussi. En tout cas, on n'est pas arrivé à la parité. Mais il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui, pendant 18 mois, nous a porté dans l'élaboration du programme, des tribunes, des invités, etc., etc. Et on pense que c'est important de mener cela. Voilà. Et en termes, pour le coup, de rapport, donc là, je parle en termes de rapport de genre et de race, mais aussi en termes de rapport de classe. Si on a mis beaucoup d'énergie à trouver autant de subventions pour mener ce colloque et pour financer la venue de l'ensemble des gens qu'on pensait qui étaient utiles à financer, c'est aussi pour ça, c'est-à-dire pour faire que les moyens financiers ne soient pas un frein à faire que des gens qui n'avaient pas les moyens de venir sur Paris, de se payer l'hôtel, les repas, le transport, etc., puissent quand même venir. Et donc c'est un travail qu'on a mené et qui a été extrêmement lourd à mener, mais qui était important pour nous pour faire représenter l'ensemble des personnes qui devaient être ici avec nous.
Alors, oui, du coup, suite à ce colloque, on pense qu'il y a différents apports qui apparaissent à la suite de ce colloque. C'est un apport, l'apport et la force du hip-hop, c'est quelque chose qui est déjà représenté depuis longtemps dans le monde anglophone. On l'a vu notamment avec la communication de Murray Forman. L'enjeu de ce colloque, ça a été de s'inscrire dans la continuité de cet héritage, mais aussi de proposer un peu un décentrement par rapport aux hip-hop studies telles qu'elles existaient jusqu'ici. Dans de nombreuses interventions, on a en effet discuté des questions, des enjeux d'impérialisme, des relations centre-périphérie qui existent dans le hip-hop global. Or, il se trouve que ces relations entre centre et périphérie, elles se retrouvent aussi dans les hip-hop studies telles qu'elles ont été faites jusqu'ici, avec notamment une forte représentation donc, du monde anglophone. Or, l'objectif premier de ce colloque, ça a été de mettre en évidence justement les perspectives francophones sur les musiques hip-hop, en donnant un aperçu de leur quantité et de la quantité de la diversité des études qui existaient en langue française. Mais cette démarche de décentrement qu'on a essayé de mettre en place, elle s'est retrouvée aussi dans le colloque à une autre échelle, qui est à l'intérieur même de l'espace francophone. Alors que les approches en langue française semblent parfois très dominées par un regard très eurocentré, donc limité au cas français, ce colloque a également mis en évidence des recherches et des apports de chercheurs et d'études sur le rap qui existent dans d'autres pays francophones, particulièrement en Afrique et au Québec. Et on a aussi vu à travers ce colloque des incursions de chercheurs francophones vis-à-vis d'autres pays, qu'il s'agisse de la République tchèque, de la Suisse ou même des États-Unis. Et enfin, donc, ce décentrement il s'est retrouvé à une dernière échelle, qui est celle d'ensembles régionaux et nationaux. Donc, on l'a bien vu avec la table ronde de mercredi soir. On a bien vu comment, à travers les mobilisations politiques au Sénégal et au Burkina, on avait le hip-hop servait de manière différente en fonction des traditions politiques qu'il y avait dans chacun des pays. À une échelle plus réduite, celle de la France, on a plusieurs communications qui ont permis de déconstruire l'idée d'un hip-hop français qui existerait de manière uniforme. On a eu des communications sur le cas nantais, par exemple, avec Jérôme Guibert, sur le cas lillois, avec Vincent Becquet, sur le cas marseillais, avec M. Jacques Honneau et avec Peter Reimer, par exemple. Et donc, ça nous a permis de montrer que voilà, les musique hip-hop n'était pas soumise aux mêmes enjeux dans différentes villes du pays, permettant de contraster avec un modèle qui est souvent établi selon des standards qui sont très parisiens. Donc, à la suite de ce colloque, ce colloque n'est cependant pas un aboutissement, mais on pourrait dire plutôt le début de quelque chose. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire et il y a plusieurs pistes qui nous semblent émerger dorénavant. Donc, si ce colloque a permis de montrer comment les musiques hip-hop étaient un objet bien balisé dans les sciences sociales francophones, il nous semble que plusieurs éléments restent à creuser. Alors tout d'abord en termes d'objets, il s'agirait notamment d'aller au-delà d'approches qui sont encore très centrées sur le rap. On a eu quelques interventions comme celle d'Adrien Comtesse cet après-midi, ou même la table ronde de ce midi, qui nous ont permis de montrer qu'il y avait tout un potentiel à aller chercher du côté d'autres formes d'art liées au hip-hop, qu'il s'agisse du beatboxing, du DJing ou même du R&B. Deuxièmement, en termes de discipline. Ce colloque a bien sûr montré comment les musiques hip-hop avaient été saisies par une diversité de disciplines, disciplines qui apportaient chacun un regard différent, imprégné de ses traditions et de ses outils de recherche. Pousser les études hip-hop dans une nouvelle voie impliquerait néanmoins d'aller vers d'autres disciplines qui ont été peu ou pas représentées dans ce colloque, même si certains de leurs enjeux étaient parfois abordés. Alors ces disciplines, il y en a plein, on pourrait en citer quelques-unes comme l'histoire, la géographie, la musicologie, la philosophie, l'économie, etc. Et troisièmement, en termes de réflexion sur la visibilité de ce champ de recherche et sa reconnaissance. Alors notre projet était certes de mettre en place un événement, donc un événement ponctuel, mais l'objectif est aussi à plus long terme de créer des réseaux pérennes qui se retrouveront de manière plus continue par des publications, de nouveaux événements scientifiques et culturels. Et que voilà, on espère que tous ceux qui ont participé à ce colloque contribueront à poursuivre ces initiatives que l'on a entamées. Donc pour conclure, ce colloque, ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Et voilà, on souhaite qu'il se poursuive par de nombreux échanges sur la liste HERC, par des publications, par des nouveaux événements. Et au final, on pense bien que, comme on l'a montré avec ce colloque durant ces 3 jours, nous sommes donc finalement tous bien conçus pour durer. Merci beaucoup. Alors donc voilà, après ces quelques mots de conclusion, on va bien sûr passer à la dernière étape de notre colloque qui est le showcase de Dead Cabal, donc qu'on invite donc à venir sur scène. Et on remercie encore une fois Kondo pour sa présence ici, pour sa conclusion.